Les enjeux internationaux.
Sur France Culture, bonjour Thierry Garçon.
Et rebonjour Guillaume Erner. Donc, comme prévu, la guerre civile au Yémen vers un processus de paix qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a un point d'interrogation après le processus de paix. Alors notre invité est David Rigoulet-Rose, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef d'Orient Stratégique, la revue qui a publié d'ailleurs une livraison récemment sur l'Arabie Saoudite, directement dépendante du conflit du Yémen. Ce dossier Arabie Saoudite a été dirigé par Sébastien Vesser. Et puis il faut saluer la sortie du Monde Arabe. C'est aussi la livraison de nos amis de la revue Hérodote, 40 ans de revue, on les invitera bientôt. Alors, pour en venir au Yémen, une trêve décidée dimanche dernier par l'ONU, plus ou moins bien respectée, des pourparlers au Koweït prévus lundi prochain, mais un pays totalement écartelé. Alors, les chiffres donnés la plupart du temps par l'ONU sont accablants. Au bout du compte, 6300 morts, 30 000 blessés, 2 400 000 de personnes déplacées, 80% de la population en quête d'assistance humanitaire, des dégâts matériels importants. Le conflit a pris une nouvelle tournure dès l'engagement militaire saoudien en mars 2015, donc il y a un an. Et sur le plan militaire, l'intervention s'enlise et il faut remarquer que les pilotes semblent bien maladroits en paraissant s'en prendre à des hôpitaux. La logique des principaux acteurs, alors ils sont très nombreux, on va le voir. On commence quand même, David Rigoulet-Rose, par les chiffres accablants.
Ah oui, c'est une tragédie humanitaire. Hein. L'ONU, à plusieurs reprises, a signalé que c'était une catastrophe pour la population civile, en dehors même des victimes du conflit direct, enfin militaire. C'est vrai que la population... Il faut rappeler que le Yémen est un des pays les plus pauvres du monde, le plus pauvre de la péninsule.
Relativement peuplé, d'ailleurs.
Relativement peuplé, presque autant que l'Arabie Saoudite, hein, et donc une vingtaine de millions... Et donc c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est absolument catastrophique parce que il y avait une amélioration relative avant le début du conflit de la situation humanitaire grâce à l'engagement d'un certain nombre de structures justement, hein, comme MSF ou autre. Et là, il y a un retour en arrière qui est catastrophique.
Alors, en ce qui concerne maintenant la guerre civile elle-même, donc on peut dire qu'en gros le pays est divisé en deux. Les houthistes du nord qui avaient été sévèrement réduits par le pouvoir du colonel général Salé,
l'ancien président Salé, oui.
Qui... Et donc sont descendus au sud, tiennent Aden, si j'ai bien, c'est ça.
Alors, ils tiennent plus Aden. Ils ont tenu, ils faisaient
ils tiennent,
la pression. Ils tiennent encore les hauteurs de Taïs. Donc en réalité il y a eu une reconquête par la coalition internationale qui a lancé une opération terrestre dans le prolongement de l'intervention de mars 2015 qui ont réussi à reprendre avec Aden les provinces en fait de l'ancien Yémen du Sud globalement, et donc il y a une espèce de... les fronts sont plus ou moins gelés au niveau de Taïz qui est l'ancienne capitale imamite et puis au niveau de Marib à proximité, mais finalement il y a une forme de gel des fronts et ça explique aussi pour partie les négociations qui semblent s'ouvrir.
On va commencer par les houthistes qui tiennent Sanaa, cette magnifique ville de Sanaa, donc dans l'ancien Yémen et l'ancienne capitale du Yémen du Nord, puis il a été unifié donc en 90.
Oui.
Alors les houthistes.
Les houthistes, bah, en fait c'est une milice d'obédience chiite, hein, zaïdite, puisque le zaïdisme est une obédience particulière de la famille chiite, propre au Yémen. Ils sont majoritaires dans la partie du Yémen occidental. Ils étaient localisés avant la prise du pouvoir de Sanaa en septembre de l'année précédente. Ils étaient localisés dans leur fief de Saada, à la frontière méridionale justement de l'Arabie Saoudite, ce qui fait que ça a toujours posé un problème pour les Saoudiens. Et puis ils ont bénéficié d'un concours de circonstances qui leur a permis de s'emparer, manifestement avec l'aide plus ou moins avérée de l'ancien président Salé, qui par ailleurs les avait combattus pendant de nombreuses années, de la capitale, avant de descendre vers le sud. Et c'est ce qui a justifié pour les Saoudiens justement le lancement de la coalition en mars 2015.
Alors on dit que les houthistes donc sont aidés jusqu'à quel point par l'Iran. Évidemment, il y a la rivalité Iran-Arabie Saoudite, et l'Arabie Saoudite donc est entrée dans cette guerre civile il y a un an environ.
Oui, dans la grille de lecture saoudienne, c'est incontestablement la hantise d'un complot supposé chiite en général et en, particulier iranien, même si le rôle de l'Iran est à prendre avec précaution, c'est-à-dire qu'il peut, l'Iran a sans doute vu qu'il y avait une opportunité géopolitique en soutenant la milice Houthi.
Mais c'est pas sa priorité.
La priorité de l'Iran, c'est la Syrie, évidemment, hein, on le voit bien. Cela dit, dans la vision, la grille de lecture de Riyad, il y a incontestablement un syndrome obsidional. Ils ont l'impression d'une forme d'encerclement par le nord et par le sud. Et d'aucuns disent que d'ailleurs, il y a une forme de hezbollahisation de la milice Houthi. Et donc, ça validerait de ce point de vue-là la grille de lecture saoudienne, même si les choses sont évidemment à prendre avec beaucoup de circonspection.
Alors, il y a un autre acteur, évidemment, très démuni, c'est le président Hadi, qui est reconnu par, comme on dit, la communauté internationale. Qui se trouve où, d'ailleurs ?
Il se trouve en Arabie Saoudite. Le gouvernement avait un temps pensé s'installer à Socotra, qui est une île en face justement de une île yéménite en face de d'Aden, compte tenu de la situation chaotique qui prévaut à Aden, en dépit de la reprise supposée justement par la coalition. Il y a des attentats qui se multiplient à Aden, et donc c'est de manière générale c'est la situation au Yémen qui est complètement chaotique en réalité. Et le président effectivement Hadi qui est le président légitime reconnu par la communauté internationale et pour l'instant un président.
Est-ce qu'on peut dire que c'est l'homme de Riyad ou pas?
Oui, et en même temps, il y a parfois des tensions avec Riyad. Riyad cherche une porte de sortie. Hadi, c'est pas forcément l'option la plus adéquate. Donc, de ce point de vue-là, il y a un jeu de rôle entre différents acteurs en coulisses.
Alors oui, alors il y a une dernière chose qui est très compliquée à comprendre. En simplifiant, vous allez essayer de nous dire ce qu'il faut en penser. Il y a ce qu'on appelle les radicaux, les islamistes. Alors Al-Qaïda dans la péninsule arabique, les frères musulmans, Al-Isla, etc. Quid de cette sorte de constellation.
On va dire que le dénominateur commun qui réunit tous les groupes sunnites, c'est l'antichiisme. Et donc, ce serait la cible des Houthis. Mais en même temps, il y a des grandes variations. C'est-à-dire que ça expliquerait qu'objectivement, par exemple, la coalition lancée par l'Arabie Saoudite profite sur le terrain à des groupes comme ACPA, à Al-Qaïda dans la péninsule arabique, par anti-sunnisme primaire. Si
et puis la nature n'aime pas le vide.
Et la nature a horreur du vide. Donc ça profite effectivement à ces groupes-là, même si c'est pas le but avéré des Saoudiens, évidemment, parce que Al-Qaïda ou l'État islamique est une menace aussi pour l'Arabie Saoudite. En revanche, le rôle des frères musulmans est plus ambigu parce que les frères musulmans, c'est le parti Al-Isla, hein, donc qui existait sur l'échiquier politique traditionnel du Yémen. Et de ce point de vue-là, il y a des problèmes aussi avec certains membres de la coalition, comme les Émirats Arabes Unis, qui détestent les frères musulmans. Or, les frères musulmans sont une pièce, évidemment, de l'équilibre politique d'une sortie de crise. Et donc, ça montre à quel point la situation est extrêmement compliquée.
L'ancien président Salé, c'est une phrase fameuse, disait à propos de la.
Diriger le Yémen. Gouverner le Yémen, c'est comme danser sur la tête d'un serpent. Il savait de quoi il parlait, évidemment, parce que c'est un expert en la matière.
C'est vraiment un animal politique.
Ah oui, c'est un animal politique, effectivement. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qui explique en partie son soutien aujourd'hui à la milice Houthi qu'il a combattue. C'était parce qu'il avait le sentiment d'avoir été mis de côté par l'Arabie Saoudite et qu'il voulait préserver les intérêts de ses enfants, notamment de son fils.
Juste d'un mot, c'est un pays qui finalement n'a jamais été unifié. Clairement, s'il y a eu une guerre civile en 94, 4 ans après l'unification officielle des deux Yémen.
Oui, il y a eu une guerre civile. Effectivement, il y a toujours eu aussi des ingérences extérieures. Mais là, ce qui est nouveau, c'est que le Yémen se retrouve otage d'une situation régionale qui le dépasse très très largement.
N'est pas seulement péninsulaire.
Qui n'est pas seulement
péninsulaire.
Oui, qui est moyen-oriental, c'est-à-dire l'affrontement sunnite-chiite. Alors même que ce type de grille de lecture ne prévalait pas au Yémen.
Merci beaucoup. Merci. David Rigoulero. Je rappelle, vous êtes rédacteur en chef donc de la revue Orient Stratégique. On y retrouvera un dossier sur l'Arabie Saoudite, franceculture.fr pour écouter l'émission, pour la télécharger. Et puis demain, un sujet enfin un peu plus souriant. Il s'agira en partenariat avec Questions Internationales, à la documentation française, du transport aérien, les évolutions mondiales clés avec notre invité Paul Chiambaretto.